simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir.
Allez, oui, ce soir, donc, on va parler un peu de lutte dans ces actualités qui sont parfois particulièrement déprimantes et angoissantes. Eh ben, il y a toujours la lutte des classes, hein, même pendant la guerre, la lutte des classes continue. Et une lutte des classes particulièrement aiguë, pointue, intense, puisqu'elle concerne des femmes étrangères et même parfois en situation irrégulière, j'allais dire sans papier, mais non, parce qu'elles en ont plein des papiers, pour le coup. Et cette lutte, elle s'incarne dans une grève illimitée, une grève d'une quinzaine de coiffeuses et également des hommes qui sont en grève. Qu'est-ce qu'y a-t-il?
Oui, alors il n'y a pas que des femmes.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Il y a quatre barbiers. Elles étaient 13 à travailler dans ce salon. Et il y en a 9 qui étaient. Donc, sur le total, il y en a 9 qui étaient sans papier.
Et alors, c'est une grève qui a lieu sur le boulevard de Strasbourg à Paris. Alors, le boulevard de Strasbourg, c'est dans le 10e, c'est pas très loin de la gare de l'Est. Et c'est un boulevard où il y a énormément de salons de coiffure, de salons de beauté, de salons d'esthétique à vocation ou à direction d'une clientèle africaine. Ce sont des salons qui ouvrent tard, qui ouvrent tout le temps et qui sont des lieux d'exploitation très très hard, puisque il y a une dizaine d'années, 10 ans même pratiquement, une décennie, il y avait déjà eu une grève importante, illimitée, victorieuse d'ailleurs, dans les mêmes conditions. Alors, cette grève, elle a reçu le soutien de la CGT par le biais d'une de ses instances, enfin qui n'est pas une instance, mais qui est un collectif migrant de la CGT, qui est une sorte de rassemblement de différents UL et de différents syndicalistes qui traitent spécifiquement de cette question des migrants. Et elle a révélé une véritable exploitation de type mafieuse de ces femmes, et pas seulement de ces femmes, mais de ces travailleuses principalement et de ces travailleurs, puisque au-delà de la charge de travail qui est immense, hein, on parle de 10 à 12 heures de travail par jour, 6 à 7 jours sur 7 parfois, avec évidemment le caractère de pression qu'il peut y avoir si tu ne viens pas, le caractère de sécurité qu'il peut y avoir par rapport aux produits chimiques qui peuvent être utilisés dans le salon de coiffure ou dans le salon d'esthétique, évidemment le harcèlement sexuel qui peut avoir lieu vis-à-vis de ses fans. Mais là, on a aussi une spécificité quant à la quant à la situation de ces travailleuses, puisque on va leur demander régulièrement de payer pour obtenir des documents qui vont leur permettre de...
Soi-disant de se faire régulariser.
Voilà, soi-disant de se faire régulariser. Donc là, on parle de paiement pour obtenir les fiches de salaire et de paiement pour obtenir les soi-disant documents qui auraient été déposés en préfecture, le taulier faisant en sorte de dire qu'il s'en occupe et que ça va tourner. Enfin bon, c'est de la mafia, mais elles vont en parler beaucoup mieux que moi, puisqu'on va écouter Coco, qui fait partie des grévistes, et puis une membre de ce collectif, je crois que c'est Adèle, une membre de ce collectif migrant de la CEGET. Ça dure une vingtaine de minutes, puis on en reparle après.
À Paris, dans le quartier Château d'Eau, des coiffeuses sans papiers sont en grève depuis début mars. Elles dénoncent des mois sans salaire, des journées de 10 heures sans repos et des conditions de travail parfois dangereuses. Certaines affirment même devoir payer leur employeur pour obtenir des fiches de paye. Alors elles ont décidé de ne plus se taire. Occupation du salon, soutien syndical et une revendication claire, être payé, protégé et régularisé.
Nous sommes au nombre de 13 employés. Depuis le 3 mars 2026, nous avons décidé de nous mettre en grève. Donc aujourd'hui, nous sommes au 23e jour de grève. Depuis un certain temps, on ne recevait plus nos salaires. Pas de salaire depuis le mois d'août, donc ça fait beaucoup.
Comment vous faites pour vivre sans salaire ?
Bon, j'avais des petites économies et c'est dans ces économies que je puisais.
Vous vivez dans une condition très compliquée. Du moment que les salaires, on ne recevait pas nos salaires, déjà il y avait des 250 euros qui nous prenaient chaque fin du mois.
Quand on a signé le contrat avec le patron, il nous a fait savoir qu'on allait lui donner 250 euros tous les mois, donc de notre salaire pour des charges. Donc tous les mois, il nous prenait 250 euros de notre salaire pour, comme quoi c'était pour payer des charges. Sauf que... L'USAF nous a prouvé le contraire que ce n'était pas le cas, donc ils ne payaient rien.
Mais si on fait le total, les 250, si on renoue au total, ça va être plus de 12 000, 10 000 et quelques, sans compter les 5-6 mois d'arriéré. Et puis les conditions, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas pause de déjeuner. On venait à 8h30, on repartait à 22h avant l'arrêté. Donc les conditions, c'était un peu compliqué, franchement. Il n'y avait pas de pause de déjeuner, il n'y avait rien du tout. On était dans des conditions qui sont très compliquées, franchement très très compliquées.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y avait des produits toxiques qui nous exposaient, les produits qui se toxiques. À cause de tous ces produits-là, il y a des gens qui avaient des vertiges, il y a des gens qui sont enrhumés à cause de ces produits toxiques.
Pourquoi c'était important? Parce qu'elles sont venues nous voir déjà pour nous exposer à ce à quoi elles étaient confrontées depuis des années. Et je pense qu'elles ont mené, boulevard de Strasbourg, des grèves qui ont abouti à la condamnation des patrons et à l'obtention de leurs droits. Alors la dernière, c'était au 47 boulevard de Strasbourg, qui a duré des mois et il y a eu une qualification d'être humain, de traite d'être humain sur cette grève qui a duré plusieurs mois et qui a été où il y avait à peu près les mêmes conditions que de travail et d'exploitation qu'ici. Ici, il y a quand même beaucoup de travailleurs qui sont sans papier et qui donc de ce fait acceptent des conditions de travail que d'autres n'accepteraient pas pour justement avoir l'espoir d'obtenir les fiches de paye pour pouvoir obtenir la régularisation. Continue à mobiliser. Il y a toute l'organisation CGT qui est aussi en place pour soutenir, pour être là, pour les accompagner jour et nuit, parce que le salon est occupé jour et nuit. Et les prochaines étapes, c'est il y a un rendez-vous pour au tribunal. Il y a un rendez-vous au tribunal, oui, pour voir si l'entreprise sera mise en liquidation ou en redressement. Ça, c'est prévu pour mi-mai. Pour le moment, on n'a pas encore la date précise, mais ce sera mi-mai. Et voilà, et on a obtenu un rendez-vous à la préfecture aussi. S'il y a un redressement, ce sera plus facile d'obtenir les salaires. Et après, il y a aussi un côté pénal qui pourrait être mis en place. Selon, on attend en fait aussi le rapport de l'inspection du travail.
Aujourd'hui, je suis fière du combat que nous menons parce qu'on commence à voir, ça porte déjà ses fruits.
Je suis avec Coco Dosso, une des coiffeuses des salons parisiens. Bonjour Coco.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Merci à vous de nous accueillir.
Avec plaisir. Et je suis avec aussi Adèle Télès de la CGT Paris.
Bonjour.
Bonjour.
Coco, ma première question va s'adresser à vous. Le jour où vous avez décidé de faire grève, qu'est-ce qui a été le déclic ?
Le jour où on a décidé de faire la grève, le déclic est parti du passage de la police. Mais avant ça, on avait décidé de se mettre en grève, mais on faisait les réunions à huis clos. Il y a eu des histoires entre mon patron et une de mes collègues qui s'appelle Bintou. Et ils ont eu des échanges. Il a eu à lui parler mal. Elle a eu à lui demander certaines choses par rapport à sa régularisation, par rapport à la préfecture et par rapport à son salaire qui n'était plus versé, notre salaire qui n'était plus versé. Et il a eu à lui parler très mal. Il lui a dit si elle voulait plus travailler, qu'elle envoie sa lettre de démission, qu'elle dégage, qu'il n'allait rien lui donner, qu'il n'a pas d'argent pour le moment. Et par la suite, elle est rentrée chez elle à la maison. Elle avait mal, donc elle avait un ami qu'elle connaissait, qui connaissait un peu tout ce qui est côté syndicat et tout. Et elle lui a expliqué le problème et il lui a donné le numéro de la CGT. Elle a appelé, elle a fait le premier rendez-vous. Elle est partie, elle est venue nous dire. Bon, auparavant, nous aussi, on avait un peu des échos comme quoi tout ce qui se passait dans le salon était un peu faux et tout, mais on espérait que ce soit pas vrai. Et quand elle est venue nous dire, nous, on lui a dit, non, patiente, on va essayer de faire nos enquêtes aussi pour voir si vraiment c'est faux ou bien c'est juste des rumeurs. Et par la suite, notre patron et son associé qui était sa compagne, ils ont eu des histoires et elle a fait venir la police, tout ce qui est douane, inspecteur du travail et tout. Et Ils nous ont dit que tout ce qui était comme fiche de paye, tout ce qui était déclaration, tout ce qui était faux. Ouais, donc c'est de là que on a eu un ras-le-bol et on s'est dit que on allait suivre Bintou et on a commencé à faire les rendez-vous de la CGT. On s'est rendu là-bas, on faisait les réunions les dimanches et ils nous ont accompagnés, ils nous ont écoutés. Et quand on a décidé de faire notre grève, ils ont décidé de nous soutenir. Et là, on a commencé la grève depuis le 3 mars.
La CGT, justement, Coco en parlait, Adèle Télès de la CGT Paris. Ce que vivent ces coiffeuses, c'est un cas isolé ou c'est plutôt un système dans lequel on est finalement ?
Aujourd'hui, on estime que, vu la situation dans laquelle elles ont été, donc ce que vous avez cité, hein, l'extorsion d'argent pour avoir des fiches de paye, les salaires non payés, 60 heures à 80 heures de travail par semaine... Coco vous en parlera peut-être, mais travaille jusqu'au dernier jour de la grossesse pour celles qui ont été enceintes, avec des produits chimiques très, très dangereux. Tout ça, on considère que ça constitue de la traite des êtres humains et que donc ces patrons se sont rendus coupables de traite des êtres humains en plein Paris, dans le 10e arrondissement. C'est des situations qui existent dans ce pays. Hein. On a eu récemment le procès des vendanges de la honte, avec des vendangeurs sans papier en Champagne, les patrons ont été condamnés pour traite des êtres humains. Ça arrive, et malheureusement, on l'apprend souvent tard, puisque ce sont, par définition, des travailleurs et des travailleuses qui sont sous emprise de leur patron.
Vous pensez, et je pense qu'on va être d'accord là-dessus, que votre patron, il a abusé, parce que justement, c'est le fait que vous soyez, pour la majorité d'entre vous, sans papier, c'est pour ça que votre patron, il allait aussi loin dans la manière dont il vous a traité ?
Oui, il y en a, oui, parce que il a vraiment abusé, il y avait des menaces, il y avait des paroles blessantes et il nous faisait aussi la cour à certaines coiffeuses.
D'accord, oui. Effectivement. Et comment vous disiez, vous n'êtes pas payé depuis plusieurs mois, comment on tient dans ces conditions ? Comment vous avez pu tout tenir alors que vous ne recevez pas de salaire ? J'imagine que c'est compliqué, mais comment vous...
Oui, c'est très compliqué et on avait un peu d'économie aussi qu'on puisait et vers la fin, il n'y a plus rien.
On vient de le dire, le statut de sans-papier, Adèle Télès, c'est devenu un outil d'exploitation pour certains patrons.
Oui, bien sûr. Le fait que des travailleurs et des travailleuses qui sont sur notre territoire, qui participent à l'économie de ce pays, qui payent des cotisations sociales, des impôts, etc., mais qui sont maintenus dans cette situation situation administrative impossible, ça permet à ces patrons de les surexploiter, de ne pas payer les heures sup, de les payer en dessous des minima, et parfois même bien plus grave, de leur extorquer de l'argent, etc., comme dans ce cas-là. Et du coup, bah, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tous les travailleurs et les travailleuses puissent avoir des titres de séjour pour pouvoir faire leur activité professionnelle tranquillement dans les mêmes conditions que tous les autres travailleurs et les autres et travailleuses.
Oui, parce que c'est aussi ça, hein, le fait de ne pas avoir de fiche de paye réglementaire, on va dire, vous empêche de pouvoir faire des démarches pour être régularisé.
Oui, et quand tu viens d'arriver, tu connais pas grande chose, tu sais pas, tu connais pas tout ce qui est loi et autres, et quand tu tombes sur un patron comme ça qui t'a dit que faut que tu lui payes 250 euros par mois sur ton salaire pour qu'il puisse te donner des fiches de paye et des contrats de travail, et nous tout on a payé ça pendant 5 ans. Oui, presque 4 ans et demi, 5 ans, on a payé 250 euros par mois pour avoir des fiches de paye et un contrat de travail. Et ils nous disaient, si on travaille plus, c'est bon parce que ça va nous permettre de rentrer à la préfecture rapidement. Ça va nous permettre d'avoir un titre de séjour. Et de là, nous, on venait tôt, on travaillait jusqu'à tard dans la nuit. On travaillait souvent de 9h à 22h, 23h. Et depuis l'arrêté préfectoral, on travaille de 10h à 20h. Mais c'est dans de mauvaises conditions, avec des produits vraiment, vraiment toxiques. Et il y en a deux de mes collègues plus moi qui avons passé toute notre grossesse en train de travailler du premier mois jusqu'aux 9 mois, et on s'est reposé juste un mois et après on est revenu. On n'a pas eu de congé de maternité, on n'a pas eu de congé payé, on n'est jamais allé en congé. On travaille du lundi au samedi, 6 jours sur 7, et on se repose que les dimanches. Et même les dimanches, quand ils te demandent de venir travailler, si tu refuses pas, si tu dis que non, que tu veux pas, si tu lui dis pas que tu veux avoir un peu de repos, il te dit de venir. Et il y a d'autres qui venaient les dimanches même.
Et aujourd'hui, justement, suite à cette grève, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, vu que là, ça fait plusieurs jours maintenant que vous faites grève, le patron et son associé, donc son épouse, ils disent quoi par rapport à cette situation?
Le patron, il est venu, je pense, la semaine passée. Il est venu, il est rentré dans le salon, il a commencé à dire, c'est lui le propriétaire, on n'a pas le droit de faire grève. Il a commencé à enlever les scotch qu'on a mis sur les caméras, parce qu'il avait les caméras dans le salon. Il nous espionnait. Quand tu viens pas à l'heure, il t'appelle, il te menace, il te dit tu es où, tu viens à quelle heure, tout et tout. Et il est venu enlever tout ce qui est scotch. Il a dit qu'on n'avait pas le droit de faire grève dans son local, qu'on devait aller dehors, tout. Et moi et mes camarades, nous sommes remontés, on a remis les scotch, on a dit qu'on quittait pas le salon. On était là, et s'il veut parler, faut qu'il parle à ceux qui nous représentent. Et de là, il s'est adressé à non, c'est Adèle qui allait vers lui. C'est même pas lui qui est venu. En plus de ça, il est toujours arrogant. Et son associé qui dit ne pas nous connaître, qui dit de rien savoir de cette situation, alors que le salon a été ouvert en 2021, et depuis fin 2021, début 2022, elle est avec nous. Elle venait tout le temps au salon. Elle avait même son institut de beauté en bas qui fonctionnait, tout et tout. Donc, quand elle dit qu'elle nous connaît pas, ça blesse un peu, parce que on la connaissait, on la voyait, et le salon porte le nom de sa fille.
Adèle, alors le patron, vous êtes allé le voir, comment il a réagi face à justement aux revendications de ses salariés et face à ce que vous avez pu lui dire?
Oui, il faut bien voir que ce patron, il est face à des accusations quand même très graves. Hein. Il risque lourd dans cette affaire, et on est persuadé qu'il sera condamné à lourd. Il est venu, ça nous a un peu étonnés. Il est venu jeudi dernier. Il a venu pour mettre la pression en fait sur les salariés grévistes. Il voulait probablement tester si elles étaient toujours sous son emprise. Et il s'est rendu compte très rapidement qu'elles étaient plus du tout sous son emprise. C'est ça, que c'était complètement terminé. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, comme dans toute grève, hein, c'est d'ouvrir des négociations. Tout simplement, nous, on est prêts à accepter que la grève se termine et que l'occupation se termine si il paye absolument tout ce qu'il doit aux grévistes. Donc on lui a proposé de revenir vers nous. Pour le moment, il n'est pas revenu vers nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que les outils qu'il a mis en place pour contrôler, surveiller les salariés, comme ces fameuses caméras de vidéosurveillance qui étaient utilisées de manière totalement illégale par ailleurs, eh bien, il se retourne contre lui, parce qu'aujourd'hui, ces vidéos-là sont pour nous les preuves du travail de ces 13 salariés, preuves qu'on va pouvoir utiliser pour leur régularisation.
L'État, face à ça, l'État, est, comment, l'État ferme les yeux ou il est dépassé? Cette histoire rappelle un film qui a marché, fonctionné, beaucoup de gens en ont parlé, donc c'est l'histoire de Souleyman. Pourtant, voilà, on a eu le sentiment qu'il y avait un espèce d'émoi dans le pays, en tout cas dans ces milieux-là, autour de ce film-là. Mais par contre, la situation des travailleurs sans papier est toujours aussi désastreuse. L'État, il fait quoi par rapport à ça, face à ce genre de patron, justement?
Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui pour que les salariés qui n'ont pas de papier ne puissent pas en avoir. Et même pour que ceux qui ont des papiers, les salariés étrangers qui ont des papiers, ne puissent pas renouveler leur titre de séjour. C'est des choses qui sont mises en place à différents niveaux. Hein. Il y a évidemment une loi, la loi Darmanin, qui a durci les conditions d'accès au titre de séjour, notamment par le travail. Mais il y a aussi tout un tas de difficultés administratives auxquelles ces salariés-là font face. Et c'est pas anodin, évidemment, dans le contexte de montée du racisme, de déferlement de racisme que notre pays connaît. Or, en fait, je le disais, pour nous, c'est vraiment une question de avoir les mêmes droits que les autres. Et aujourd'hui, avoir un titre de séjour ou ne pas avoir un titre de séjour, c'est l'élément fondamental pour pouvoir avoir accès à ces droits au travail.
Justement, Coco, là, votre priorité demain, c'est plutôt votre salaire ou les papiers, ou j'imagine les deux. Mais quel est vous attendez quoi de ce combat?
On attend beaucoup de ce combat. On attend d'abord d'être régularisé pour celles et ceux qui ne sont pas régularisés, d'être remboursé des 250 euros qu'on a eu à payer illégalement pendant 5 ans et d'être aussi remboursé de nos heures supplémentaires, de nos congés non payés, de nos congés maternité qui n'ont pas été payés et que justice soit faite.
Est-ce que ça vous incite après, j'imagine, et j'espère vraiment que votre situation sera régularisée et que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez, à continuer dans la coiffure où vous avez finalement cette expérience vous aura un peu dégoûté de ce métier?
Mes collègues, il y a d'autres qui veulent continuer dedans, il y a d'autres qui veulent arrêter, mais moi particulièrement, j'en ai eu plein. Ma gueule là, je veux plus être dans la coiffure, je veux tout ce qui est coiffure, tout, je veux un autre boulot qui pourra m'apaiser, qui pourra me faire changer, je veux quitter la coiffure.
Adèle, dans ce type de lutte, qu'est-ce qui fait bouger les lignes en fait? C'est le droit ou c'est le rapport de force en fait au final?
Nous, notre but à la CGT, comme vous dites, c'est d'avoir le rapport de force le plus haut possible pour faire bouger à la fois le patron, à la fois la préfecture, hein, parce qu'il y a bien ces deux éléments-là. Et pour augmenter ce rapport de force, on utilise absolument tous les outils qui sont à notre disposition. Le droit, c'est un outil, donc on l'utilise et on va engager des poursuites pénales. Mais il y a évidemment notre force militante, c'est-à-dire qu'elles se sont non seulement mises en grève, mais elles ont décidé d'occuper leur salon. Tout ça nécessite de sécuriser le lieu, de s'organiser, les repas, les nuits, etc. Hein, puisqu'on dort sur place, on est là 24 heures sur 24. D'accord. Donc ça, c'est un élément hyper important du rapport de force. Et le dernier, c'est toute la solidarité qui est en train de se mettre en place autour de ces grévistes. Et cette solidarité, il faut quand même le dire, elle est exceptionnelle. Aujourd'hui, on a du passage de gens du quartier, de gens de toute l'Île-de-France, tous les jours au salon. On a des associations, plein de militants divers et variés qui viennent, une couverture médiatique importante, et enfin une solidarité financière. Et je voulais en profiter aussi pour dire que non seulement elles ne sont pas payées depuis au moins septembre, mais en plus, en grève, on n'est évidemment pas payées, et on est sûr qu'elles vont gagner cette grève. On n'a pas de doute sur le fait que la victoire est au bout, mais il faut qu'elles puissent tenir jusqu'au bout, justement. Et ce genre de grève, elles sont longues et elles sont dures. Et il faut bien pouvoir payer son loyer, c'est bientôt la fin du mois, et manger pendant ce temps-là. Donc j'en profite pour passer un appel à la solidarité financière. Il y a une caisse de grève en ligne qui a été mise en place.
On a déjà vu des luttes similaires dans le quartier, notamment des coiffeuses dans les années 2010, donc toujours boulevard de Strasbourg. Pourquoi, selon vous, Adèle, ça continue alors qu'on est informé de ce qui se passe dans ces salons?
Premièrement, d'une part, On dit que ça se passe beaucoup dans ce quartier-là parce que c'est visible, parce que c'est en plein Paris. Mais en réalité, des situations comme ça, il y en a dans énormément d'endroits de ce pays qui sont beaucoup moins visibles, sur des chantiers, au fond des restaurants, dans des champs agricoles. Et voilà, donc il n'y a pas que ce quartier qui est concerné. Mais il y a quand même une chose qu'il faut bien dire, c'est que, in fine, l'État est responsable. Parce que c'est l'État qui ne fournit pas les titres de séjour à ces personnes qui travaillent. Et pour ajouter que l'État est responsable, et en plus, ça devrait quand même lui poser problème, puisqu'il y a des cotisations qui ne sont pas payées, il y a des infractions pénales à de multiples titres qui ont lieu. Et donc, en fait, c'est ces patrons-là, souvent, qui font de la traite des êtres humains, etc., c'est aussi les mêmes patrons qui se rendent coupables de plein d'autres infractions pénales. Donc, l'État devrait s'y intéresser de beaucoup plus près, en réalité.
Vous, Coco, justement, avec l'expérience que vous avez dans ce métier-là, si demain, j'ai bien compris que vous ne souhaitez pas revenir dans ce métier, mais si jamais quelqu'un souhaite finalement reprendre ou faire ce métier, vous avez des collègues vous venez de me dire qu'il souhaitait reprendre. Qu'est-ce qui doit changer absolument, selon vous, d'après votre expérience ?
D'après mon expérience, ce qui doit changer, ce sont des heures de travail et les conditions de travail aussi, parce qu'on utilise beaucoup de produits toxiques. Voilà, si on peut avoir des produits adaptés à nous comme adaptés aux clients, ça sera vraiment génial, parce qu'on utilise beaucoup de produits toxiques qui nous rendent malades, qui nous donnent tout le temps la grippe, le nez qui coule, parce que on aspire, et faut qu'il y ait vraiment des trucs pour bien aspirer les produits aussi, parce que là il y en a pas du tout.
J'imagine que les lieux sont assez
et puis les lieux sont assez coincés. On est plus de 10 coiffeuses dans un salon, et après quand les clients ils viennent, ça s'entasse, et on devient un peu comme dans une fourmilière. On est vraiment, vraiment coincé.
On arrive à la fin de cet entretien. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, j'imagine, c'est la victoire.
Merci.
Et comme Adèle venait de le dire, de toute façon, cette lutte sera forcément, ou on l'espère en tout cas, victorieuse.
On en est très confiants, oui.
Très bien, merci à toutes les deux d'avoir été.
On vous tiendra au courant des suites de cette grève et puis de ce mouvement. Je crois qu'en France, c'est souvent qu'il y a ce type de situation. On en a connu une dans la région, puisqu'il y a eu les vendangeurs de la honte, comme on dit. Même si c'était...
Ah, c'est pas les vendangeurs hein, qui étaient de la honte, c'est l'exploitation, c'est l'exploitation. C'est les vendanges.
Ouais. Ouais, les vendanges de la honte, ouais. Il y a aussi le travail de sans-papiers qui existe comme partout.
Ah bah, à fond.
Par exemple, on a été soumis, par exemple, à des gens qui étaient exploités par leur propre communauté. C'est-à-dire que vous aviez des entreprises comme Lidl, comment ça s'appelle
Alors, il y a plein de secteurs, mais les secteurs, nous, qu'on a rencontrés ces derniers temps, c'est effectivement la sécurité.
La sécurité.
Hein, où, c'est un boulot où tu peux avoir une cascade de sous-traitance, et puis où les compétences vont pas être forcément hyper regardées.
Normalement, ouais, elles devraient.
Eh oui, normalement, elles devraient. Donc, on a eu l'occasion de découvrir quelques personnes en situation régulière qui travaillait pour la sécurité des magasins Lidl. Alors la situation, elle doit encore exister, même si elle est plus discrète. Et puis, alors moi j'ai de forts soupçons, mais en l'absence de preuves irréfutables, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais actuellement, il y a quelques grands chantiers sur Reims. En particulier, le chantier du site de la future école de commerce Neoma, sur les anciens docks, et il y a beaucoup de monde et beaucoup de passages, et il serait pas étonnant que sur certaines fonctions il y ait des situations plus que ric-rac. Alors, légère différence par rapport aux vendanges, c'est que d'une part, c'est quelque chose qui a été découvert, dénoncé et qui est passé en justice. Il n'y a pas eu, comme il y a à Paris, des organisations ou des tentatives d'organisation de lutte spécifiques sur le moment pour contrer. Alors, il y a deux trucs à cela. Hein. Le premier, c'est que ben, les vendanges sont un moment extrêmement intense et donc l'organisation est un peu plus compliquée. Mais il y a aussi, de la part des organisations syndicales champenoises, marnaises en tous les cas, et des militants politiques d'une manière générale, sur notre région, une espèce, un manque de culture, un manque d'intérêt sur ce que peut être ce type de travail. C'est-à-dire cette ambiance particulière qui est la saison, qui est le travail viticole, qui est le travail temporaire, ça charrie quand même un ensemble de travailleurs qui sont des travailleurs spécifiques, mais tout le monde a des travailleurs spécifiques. En tous les cas, ce n'est pas des travailleurs qui sont dans des cadres habituels pour des syndicalistes. Donc c'est une population qui est toujours délicate, difficile à soutenir si tu n'as pas les codes. Il faut
C'est extrêmement mouvant. En plus, ça n'a pas forcément de lieu fixe de travail.
Ouais, et puis l'intérêt est assez faible pour les syndicalistes. Alors là, pour le coup, ici, là, on a un double intérêt. C'est que un syndicaliste, il a une capacité à se porter partie civile, donc il va pouvoir avoir de la thune en tant que dommages et intérêts. Mais bon, tout ça va être expliqué dans le petit son qu'on va écouter justement sur le compte-rendu du procès. Puis après, on donnera quelques bonnes nouvelles, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont quand même assez hallucinantes. Le monde tel qu'il va est quand même un monde de déglingué, de fou, quoi. C'est vraiment incroyable. Essayons donc de voir quel a été le compte-rendu de ce procès, et puis de revenir sur cette affaire de 2 minutes, enfin 40 d'heure pour le coup.
Vous avez le cul terreux, mais des couilles en or. Vous vivez dans la démesure et vous le gueulez haut et fort avec vos gros. Manquez d'élégance. Et moi la bulle parmi les autres bulles. Montrez-moi la surface que je m'y éclate. Et moi la bulle parmi les autres. Sans bâton l'hectare, on peut aimer la terre. Notre salut tombé dans les bras d'une riche héritière. Mais les vilains vignerons les cachent au fond de leur caveau. Nanana, 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 ma fille, ce garçon n'est pas. Et moi la
trop tard. Et nous avons la hargne. Et nous boirons tout notre sou. Votre champagne.
Toi, tu voulais plus particulièrement nous parler, ben, on va dire, d'un grand classique
d'hébergement,
d'une part, et puis d'un grand classique, la découverte de travailleurs sans papier qui se sont fait gruger, quoi.
Ouais. Alors, au niveau des travailleurs sans papier qui se sont fait gruger, c'est classique, mais ça a pris de l'ampleur, je trouve. Hein, puisque il fut un temps où c'était beaucoup de l'Europe de l'Est. Polonais, bulgares, là, ça a été jusqu'à des Africains, beaucoup d'Africains, beaucoup plus qu'il y en avait eu jusqu'à maintenant. Bon, alors ensuite, que dire aussi par rapport à ça? Quand vous êtes sans papier, vous n'avez pas les moyens de vraiment de négocier votre prix, puisque vous vendez, et il y en a qui ne pouvaient pas se vendre à moins de 7-8 euros de l'heure, hein. De travail, hein. Ils étaient évidemment pas à la tâche, puisque on les aurait payés à la tâche, on les était à demi-journée carrément, ou la journée, on leur proposait, c'était des margoulins, qui leur proposaient sur place, à Épernay par exemple, bah, pourquoi pas 70 euros la journée, hein, pour 10 heures de travail, voire plus.
Donc c'était plus souvent à moins de 50 euros de la journée.
De la journée, voilà. Donc c'était, en plus, il y en a certains qui sont fait tellement gruger que ceux qui ont été acceptés n'ont pas forcément été payés.
Alors, avec un rappel, c'est qu'une journée de vendange, c'est pas les vendanges ne rentrent pas dans le code du travail, c'est le code rural, et que les horaires, les heures, c'est plus que 8 heures par jour ou 7 heures par jour.
Plus même, plus.
Oui, alors, c'est plus.
Ouais, on parle du code rural puisque c'est un code qui a été écrit avant le droit du travail. Hein. Le droit du travail, c'est assez récent, hein. ça a un tout petit peu plus d'un siècle, et que ce code rural, il a été mis en place à partir du moment où on a eu d'un côté la création d'une fonction publique et de l'autre l'apparition du salariat qui a commencé à grignoter un peu le monde de la paysannerie. Il a été évident que les paysans étant la classe et majoritaire à l'intérieur de la France et de la société, il fallait que les gens reviennent à la ferme pour les moments importants comme les moissons, comme les récoltes, comme les vendanges, etc., etc. Et que donc ce code rural, il a été rédigé à ce moment-là. Ça vous donne des petites particularités. Par exemple, eh ben, on a le droit de prendre des congés payés pour faire les vendanges, alors que normalement, on n'a pas le droit de travailler pendant ces congés payés. Et même les fonctionnaires, qu'ils peuvent prendre des congés, ils peuvent travailler pendant le week-end s'ils n'en ont pas assez, les bougres, de toute façon ils foutent rien, on le sait bien, pendant les vendanges. Et du coup, comme il fait beau, hein, et que c'est la fête, et que ça fait du bien pour le corps, et ben la limitation du temps de travail, qu'elle est pas pareille. Qu'on peut travailler, alors ça dépend, c'est à la semaine, c'est pas à la journée, comme ça on peut avoir des petits rapports, mais on peut travailler jusqu'à 60 heures semaine. Voilà, donc théoriquement, on est à la disposition du patron 10 heures par jour. Voilà.
Oui, ça peut même aller jusqu'à 72 heures pour certaines catégories de personnel, donc entre autres les gens qui font le transport des vendangeurs, les gens qui bossent au pressoir et le personnel, là où ça existe, qui fait la cuisine pour les vendangeurs.
C'est ça, ça veut dire 12 heures par jour sur 6 jours avec éventuellement un jour de repos. Alors, ça vous donne des choses, par exemple, où vous avez... ça, c'était avant, parce qu'il y a des normes qui ont été condamnées, mais ça existe quand même encore. Les lits de camp, qui vont être à côté de l'exploitation ou dans l'exploitation, à côté du pressoir, en gros, et on va dormir quand on peut dormir. Et pourquoi aussi il y a cette tension qui est posée, c'est que le législateur estime que, comme c'est du périssable... on a le droit d'outrepasser les limites qui sont imposées. Alors c'est du périssable, ça veut dire qu'une fois que le raisin il est coupé, bon déjà faut le couper d'une part, mais une fois qu'il est coupé, ben faut le traiter. On peut pas le conserver, obligé de le faire. Donc une fois que c'est fait, on peut poser. Alors on imagine un petit peu ce que ça a pu donner, puisque comme on vous le disait en introduction, Toubar et compagnie se frottaient les mains. On sait cette année que le pressoir du Ménil-sur-Oger, de la coopérative du Ménil-sur-Oger. Donc on est dans la côte des Blancs. C'est vraiment le top niveau de ce qu'on peut faire en raisin et en champagne. On va avoir un kilo de raisin qui va être compris entre... Alors cette année, comme il y en avait beaucoup, on va dire plus de 6 euros le kilo en valeur de vente ou en valeur d'achat. Allez, 6,20 €, on va être plus de 6 € le kilo. On sait que le pressoir de la coopérative de Ménil-sur-Oger, il y en a deux, donc c'est celui dont je parle là. Premier, a battu son record historique avec 200 000 kilos de raisins pressés dans la journée. 200 000 kilos.
À la journée ?
En la journée, dans une journée.
Wow.
200 tonnes. Ça représente plus de 1 500 000 € de valeur marchande. Ça représente certainement... 20 heures de travail sans discontinuer pour les gens qui étaient là, quoi. C'est incroyable en termes de fric, de moyens, de ce que ça veut dire en mise en place. Mais donc pour ça, il faut que derrière il y ait des gens qui coupent le raisin et du coup qui les coupent dans des conditions que tu décrivais là, mais qu'on n'a pas décrit encore, pardon, mais que l'hébergement, parce qu'il faut les stocker ces vendangeurs, faut les transporter sur les parcelles, et puis il faut réussir à les tenir et à les faire travailler, alors, quoi.
Tous les ans, il y a des scandales. Là, je crois que il y en a eu plus que d'habitude. 4. Et au moins 4. Alors, il y a déjà eu, je crois, ça s'est passé à Mourmelon-le-Petit. C'est pas très loin de Reims. Il y avait une centaine de lits de camp. 5 à 6 personnes pouvaient cohabiter dans une pièce de 17 mètres carrés et 3 dans 8 mètres carrés. Les escaliers n'étaient pas éclairés, l'équipement incendie n'était pas fonctionnel et des matières inflammables ont même été trouvées dans la cave. Il y avait également dans cet immeuble des fuites de canalisation, parfois à proximité d'installations électriques. La préfecture d'ailleurs a fermé le lieu le 8 septembre dernier en soulignant qu'il y avait un gros risque pour la santé mentale compte tenu de la suroccupation et des risques constatés. Donc voilà, c'était à Mourmelon-le-Petit, c'est à côté de Reims. Ensuite, il y a eu ce qui s'est passé cette fois-ci sur Épernay, avec des travailleurs ukrainiens qui ont été relogés par leur employeur sur Épernay. Et là aussi, il y avait des gens qui n'avaient pas de papier. Il a fallu que la CGT réclame la régularisation des sans-papiers. Mais surtout, finalement, ça c'est que, parce que la régularisation des sans-papiers, faut pas se faire d'illusions, hein. C'est pas en 10 jours que vous allez l'obtenir, 15 jours. Ce qui va se passer, c'est que par contre, il faut se battre pour que ces gens-là soient payés. Bon. Alors, au niveau des paiements, faut voir aussi que il y a deux types de rémunération. La rémunération à l'heure, qui peuvent être intéressantes lorsqu'il n'y a pas beaucoup de raisins. Et puis, cette année, comme il y avait beaucoup de raisins, la tâche. Alors la tâche, eh ben c'est dingue. Il faut bosser comme un fou. Il faut faire le maximum de kilos et il faut par équipe. Hein, ça fait, c'est par des équipes. Alors je vous dis pas l'ambiance qui peut régner dans une équipe lorsqu'il y en a un ou deux
qui traînent les pieds ou qui vont pas assez vite.
Oui, en plus, bon, effectivement, théoriquement, les vignerons sont tenus à une certaine quantité de raisins. Mais cette année, cette quantité de raisins, elle a été augmentée. Et en plus, ils avaient un droit presque équivalent pour faire ce qu'on appelle de la réserve. C'est-à-dire que on engrange du vin
du
pour
vin, ouais.
pour les mauvaises années.
Alors justement, on parlait de, au niveau des vendanges, au niveau de l'esclavage qu'il peut y avoir, l'hébergement, ça a toujours été le pire, quoi, parce qu'effectivement, ils veulent absolument pas investir au niveau des vignerons. Qu'au niveau des grosses boîtes de champagne, les grosses boîtes de champagne s'en foutent puisque ils délèguent leur pouvoir à des macros qui vraiment font n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que normalement, par exemple, je prends des tentes. Normalement, il est interdit d'avoir une tente sur son lieu de travail, mais on peut mettre les tentes à 100 mètres. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu as des vendangeurs qui font leur vendange sous les tentes, sans problème. Alors ensuite, au niveau des sanitaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ont été découvertes par des inspecteurs du travail, qui ont d'ailleurs fait venir les gendarmes, qui ont découvert que, par exemple, dans une grande bâtisse à étages, le 18 septembre, il y avait 18 vendangeurs, pour la plupart d'origine bulgare, qui vivaient là dans des conditions complètement désastreuses. C'était à Cuisse. Ensuite, il y a eu à Charly-sur-Marne. Ouais.
C'est à côté de Château-Thierry.
L'aire d'accueil sur lequel les vendangeurs issus de la communauté des gens du voyage doivent s'installer avec leur famille pendant les vendanges, ça a créé une polémique parce que les viticulteurs et les vendangeurs ont déploré évidemment l'état et son manque d'hygiène. C'était terrible, il y avait des odeurs liées à la proximité de la station d'épuration, parce que ils peuvent être logés n'importe où. Et quand on vous dit n'importe où, on peut les mettre carrément à côté d'un truc qui pue.
C'est des chiottes.
Vraiment, c'est incroyable. Alors après, avant qu'on se quitte quand même, ce qui est important de comprendre, c'est que il y a peu de gens vraiment, sauf peut-être certains syndicats, il y a peu de gens qui posent les problèmes des responsabilités. C'est-à-dire que ceux qui se font prendre et qui peuvent être effectivement poursuivis pour traite des êtres humains et être punis par de l'emprisonnement, mais ça c'est théorique, hein. 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, ouais, ça c'est théorique. N'empêche que bien souvent, la plupart du temps, les procès traînent en longueur, et puis les véritables responsables ne sont pas là. C'est-à-dire que c'est pas LVMH que vous allez retrouver en justice. C'est bien évidemment les sous-traitants. Quoi.
Sauf, il y a eu un procès où il y avait un responsable d'une grande maison de champagne qui était là, mais c'est le seul qui a été relaxé.
D'accord. Mais il est pour rien, lui, de toute façon. Hein. C'est lui qui empoche le fric. Mais...
Ben, il est pour rien, mais il a forcément, si il a pas l'ensemble de la chaîne, quoique sur le procès de 2020. Alors, pour cette année, hein, on le répète, donc c'est 5 morts, 4 plus 1, plus 2 enquêtes pour traite et trafic d'êtres humains qui ont été déclenchées. Avec le pompon, on peut dire, à Nesle-le-Pont, où une cinquantaine de travailleurs d'origine sénégalaise, malienne et mauritanienne, tous en situation irrégulière, ont été découverts dans des logements de fortune. On n'a pas encore tous les éléments, mais il semblerait que certains d'entre eux aient bossé pour Mouette et Chandon. Donc bon, on verra bien ce que les enquêtes vont donner, mais le procès donc qui avait eu lieu en juillet 2020, qui avait concerné 77 personnes qui avaient été embauchées par une société qui s'appelait Rajviti, fondée à Montbré par des gens, des Sri Lankais, qui avaient trouvé leurs victimes parfois devant des CAO, centres d'accueil et d'orientation des migrants.
Ouais.
Ce procès, il a impliqué deux autres donneurs d'ordre qui étaient la SARL, donc des prestataires qui s'appellent Viti Chenille et Serviti, qui sont des boîtes plutôt connues, qui existent encore, hein, donc qui n'ont pas été dissoutes à l'issue de ce procès. Et enfin, en troisième hauteur, troisième étage de la fusée, le responsable prestation des prestataires chez le VCP. Alors, pas le responsable absolu, mais le responsable pour ce secteur-là.
Bon, ça, c'était un reportage, c'était une émission qu'on avait fait en 2023, en novembre 2023. Donc... voilà. Alors, depuis, il y a eu deux procès. Alors, il y en a un où les résultats ne sont pas définitifs, puisqu'il y a appel. Alors, c'est le cas de Montmelon sur l'hébergement, où il y avait 80 personnes qui venaient de l'Est, qui étaient, dont des enfants. Voilà. Qui sont repartis, donc il n'y a pas eu de suite de ce côté-là. Donc, résultat au tribunal en première instance. Alors, le gérant de la boîte qui s'occupait d'eux a été condamné à 2 ans de prison ferme. Après, il est interdit d'acheter un bien immobilier et commercial, et son entreprise est condamnée à 350 000 euros. Alors, sur l'action civile, le prévenu devra verser 206 000 euros à la MSA, 3 000 euros au titre de préjudice et 1 000 euros supplémentaires pour les frais de défense du comité Champagne, et puis 1 000 euros et 800 euros à l'intersyndicat du Champagne, CGT.
Ouais, alors la difficulté, c'est que l'ensemble des victimes n'a pas été retrouvé, quoi. Hein. La plupart d'entre elles ne verront pas forcément la couleur de l'argent. Il n'y a pas eu un enthousiasme fou de la part
des autorités pour
publiciser ce truc. Et 310 000 euros, ça fait pas grand-chose par rapport à la souffrance et au manque à gagner, mais bon, la MSA est contente, elle va pouvoir remplir ses caisses, mais certainement pas les reverser. Alors, plus 310 000 euros, bon, alors là, en général, oui.
Oui, non, mais c'est juste pour revenir à la suite, au deuxième procès, où là, les résultats sont définitifs, sauf s'il y a une demande de cassation, mais ça m'étonnerait. Donc, puisque c'est passé en appel, c'est le procès de Nel Le Pont, où il y a 80, comme tu l'avais dit, 80 Africains qui travaillaient et qui étaient. Alors certains ne sont pas restés longtemps, donc en fait, ils en ont retrouvé 53. Alors pour ces 53 qui étaient soutenus par la CGT, et qui sont encaissés. Ils ont pour l'instant une carte d'un an et ils sont en attente d'une carte de 10 ans parce que il y a, dans la condamnation, il y a la traite de personnes. Donc, ils donnent droit théoriquement, automatiquement, à une carte de 10 ans. Alors, la boîte qui les employait,
la directrice, elle est. Alors, elle a eu quoi? Elle a deux ans de prison, ferme. Elle était poursuivie pour travail dissimulé, emploi d'étrangers sans autorisation de travail salarié, soumission de personnes vulnérables et dépendantes à des conditions d'hébergement indignes et à une rétribution inexistante ou insuffisante. Alors, la société qui s'appelle Anavin, elle est dissoute. Sa patronne, donc chaque victime va recevoir 4 000 euros. Alors, c'est les ceux qui n'avaient pas eu de salaire, les Africains qui n'avaient pas eu de salaire. Et puis, pour les deux personnes qui recrutaient pour la société Anavim, c'est un an de prison avec sursis pour avoir eu recours au service de personnes ayant un travail dissimulé. Donc, voilà.
Alors, la question qui n'est toujours pas posée, c'est comment et pourquoi, et peut-être, d'ailleurs, il faudrait un jour mettre en accusation le comité Champagne, comment ces cas peuvent se reproduire tous les ans, parce que, évidemment, dans le monde merveilleux du capitalisme, il y a ceux qui se font gauler, puis il y a tout ce qui se passe qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et ça, c'est sûr que c'est pas forcément la justice, alors que de temps en temps, qui arrive à mettre un doigt sur certains trucs, mais quand on imagine ce qui peut se passer en sous-marin, c'est que ça doit être assez énorme. Alors, il y a un cas, là, on va terminer là-dessus, qui est quand même assez incroyable quand on parle du capitalisme et de la moralité de ces gens-là, hein, de leur capacité à s'asseoir sur toutes les normes possibles et imaginables. Donc, c'est tombé cet après-midi, hein, vous allez certainement en entendre parler en long, en large, en travers, quoique ça m'étonnerait. Donc cet après-midi, hein, lundi 13 avril, date où l'émission est enregistrée, il me reste 2 minutes donc je vais aller très vite. Le cimentier Lafarge a été reconnu coupable de financement du terrorisme en Syrie. La justice a rendu lundi 13 avril son jugement, elle condamne l'ancien PDG Bruno Lafont à 6 ans de prison avec incarcération immédiate, ainsi que le directeur adjoint de la cimenterie Beaugrand, qui lui est condamné à 5 ans de prison avec incarcération immédiate. Alors pourquoi? Parce que il a été démontré que pendant 3 ans, la société Lafarge, qui a depuis été avalée par le Suisse Holcim, donc maintenant c'est Lafarge Holcim que vous voyez, sur les camions, a versé 5,6 millions d'euros à 3 groupes, donc l'État islamique, Daesh, Jabhat al-Nusra, un autre groupe, un peu plus minoritaire. Elle a versé 5 millions 6 d'euros pour pouvoir assurer la sécurité de son site de production de Jabalia en Syrie et ainsi continuer à poursuivre la production de ciment sous la coupe, sous l'égide, sous la protection des terroriste. Il a été démontré qu'une partie de cet argent avait servi à la structuration de l'État islamique et au financement d'opérations sur le sol syrien, mais aussi à l'extérieur et particulièrement en Europe, évidemment. La remontée des fonds n'a pas pu être jusqu'au bout du bout du bout du bout, mais ça ouvre l'espace à toutes les hypothèses. Petite cerise sur le gâteau, le directeur de la sécurité de Lafarge pour la Syrie est un ancien membre du Front National qui a été numéro 5 sur la liste pour les municipales au Rassemblement Bleu Marine en 2014. Il a été dispensé de peine puisqu'il a décidé de témoigner à charge et il a affirmé qu'il mettait une copie de ses rapports à la direction du renseignement militaire et à la DGSE en expliquant qu'ils étaient obligés de donner des sous à ces gens-là. Alors évidemment, les dirigeants de la Farge se sont dédouanés, ont essayé de se dédouaner en disant que l'État français était au courant, donc ils n'avaient pas l'impression de faire quelque chose de mal, hein, puisque l'État était au courant. Mais bon voilà, ça vous donne quand même une idée de cette espèce de cloaque que peut être le capitalisme français arrivé à un certain niveau de degré et de compétence.
Radio Primitive. Faites votre radio vous-même.